BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Guillaume Sommerer.
Votre avenir financier prend le pouvoir jusqu'à 18h. Bienvenue à tous. On va parler, oui, de vos placements au rythme des marchés. Marché en hausse pour entamer cette semaine. Petite hausse de 0,29%. Les publications d'entreprises vont véritablement accélérer cette semaine. L'optimisme des marchés sera confronté à ces publications. On va voir ce que les marchés ont dans le ventre, si cet optimisme peut perdurer au-delà de ce que nous annonceront les entreprises, voire grâce à ce qu'elles nous annonceront en cas de bonne surprise. Cette semaine, on suivra sur le CAC Alstom, LVMH, ST Microelectronics, aux États-Unis, Microsoft qui ouvrira le bal des GAFAM. On va parler de tout cela bien sûr avec nos experts tout au long de l'après-midi. On parlera de plus en plus du coup d'entreprise dans les prochains jours, puisque sur le front macroéconomique, le calendrier ralentit. Les différents membres de la Fed sont contraints au silence jusqu'à la prochaine réunion de politique monétaire. C'est la période de blackout traditionnelle qui précède avec quelques jours d'avance la décision de politique monétaire attendue la semaine prochaine. Donc pas de grande expression attendue du côté de la Fed cette semaine. Du côté de la BCE, on voit quand même quelques expressions encore avant le blackout qui commencera aussi dans quelques jours, et notamment ce week-end, l'expression d'un des membres de la Banque Centrale Européenne, du Comité de Politique Monétaire, qui a fait encore s'envoler l'euro face au dollar. On est à plus d'1,09 aujourd'hui, le dollar qui recule aussi face à l'euro. Glasnost, donc, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, qui déclare qu'elle relèvera ses taux de 50 points de base à nouveau en février, 50 points de base en mars, et qu'elle poursuivra sur ce rythme au cours des mois suivants. Et évidemment, ça renforce l'euro face au dollar, puisque parallèlement, on attend au contraire un ralentissement du côté de la Fed. On va en parler, bien sûr, avec nos experts. Notez d'ailleurs sur le front obligataire que le 10 ans italien se détend particulièrement. L'écart de taux se resserre fortement depuis quelques semaines avec l'Allemagne, ce qui pourrait d'ailleurs encore un peu plus décomplexer les membres les plus faucons de la BCE qui souhaitent réagir davantage, puisque le risque de fragmentation en zone euro est en train peu à peu de se réduire à mesure donc que ce 10 ans italien est en train de se détendre. On parlera aussi dans l'univers de vos placements d'assurance vie. Tiens, et les fonds euros qui nous annoncent de meilleurs rendements pour l'année 2022, va-t-on vers une revanche, un attrait renouvelé, retrouver des fonds euros face aux unités de compte? On en parlera notamment avec Philippe Parguet, il est le patron de Norcia, et il nous dévoilera les résultats du baromètre trimestriel de Norcia sur l'attitude, les choix d'investissement des épargnants. Voilà le menu, on est à vos côtés, on joue dans votre camp pendant 3 heures. Et tout de suite, Stéphanie nous rejoint, Stéphanie Collo, pour parcourir l'ensemble de l'actu économique du jour.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, c'est la réforme des retraites qui a été adoptée ce matin en Conseil des ministres. Le gouvernement est déterminé à aller jusqu'au bout sans renoncer au report de l'âge légal de départ à 64 ans. Mais il reste ouvert à des améliorations, notamment concernant l'index senior. Pour pousser à travailler plus longtemps, l'exécutif menace de sanctions financières les entreprises de plus de 300 salariés qui ne respecteraient pas cet index. Écoutez, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, s'exprimait à l'issue du Conseil des ministres.
Un index sur l'emploi des seniors qui permettra de mesurer l'implication des entreprises de plus de 300 salariés, tant pour le maintien dans l'emploi, la formation que le recrutement de salariés considérés comme seniors, avec une obligation de publicité. Ce non-respect sera accompagné d'une sanction financière, et avec une obligation de négociation en cas de positionnement insuffisant ou insatisfaisant sur l'index, puisque nous réintégrons l'emploi des seniors au titre des items de négociation entre partenaires sociaux obligatoires au sein des entreprises.
La réforme des retraites qui aura un impact très faible sur les finances publiques en 2023, avec un coût net estimé à 400 millions d'euros selon le Haut Conseil des Finances Publiques. Un montant marginal à l'échelle du système des retraites qui pèse à lui seul 340 milliards d'euros de dépenses par an. Prolonger les réacteurs nucléaires actuels au-delà de 60 ans, c'est ce que souhaite EDF, mais l'autorité de sûreté nucléaire prévient, il va falloir étudier et justifier ce choix d'ici 2024. La SN prendra, elle, position d'ici fin 2026. Déclaration du président de l'autorité de sûreté nucléaire lors de ses vœux à la presse aujourd'hui. Toujours à propos d'énergie, le pipeline en construction entre Barcelone et Marseille sera étendu à l'Allemagne, annonce d'Emmanuel Macron et Olaf Scholz hier à l'occasion du 60e anniversaire du traité de l'Elysée. À terme, ce pipeline servira à transporter de l'hydrogène vert et doit couvrir 10% des besoins en hydrogène de l'Union européenne. LVMH renonce à installer son centre de recherche sur le plateau de Saclay dans l'Essonne. Il devait se situer à proximité de l'école polytechnique qui avait donné son feu vert malgré la réticence de certains élèves. Leur partenariat de recherche évalué à 2 millions d'euros par an pendant 5 ans est maintenu. Après Microsoft, Amazon ou encore Google, c'est au tour de Spotify de sabrer dans ses effectifs. La plateforme supprime 600 postes, soit 6% de ses effectifs. Spotify est toujours en quête de rentabilité malgré ses 479 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Et puis 1,5 million de Français ont été actifs en bourse l'année dernière. C'est un peu moins qu'en 2021, qui était une année record. C'est ce que rapporte l'AMF. Au total, il y a eu 42 millions de transactions sur les actions européennes, ce qui représente un recul de 24% par rapport à 2021, Guillaume.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Merci Stéphanie, on va continuer de parcourir l'actu du jour tout au long de l'après-midi, bien sûr en direct sur BFM Business, l'actu économique, grâce aussi à nos experts de marché. Si vous nous suivez à la télévision, vous apercevez d'ores et déjà Bertrand Lamiel. Bonjour Bertrand, on va vous rejoindre dans un instant depuis les bureaux de Ports-en-Pas, alors que le CAC 40 est en hausse en ce lundi après-midi. Étienne aussi avec nous depuis la Tour Euronext. Bonjour Étienne. Oui, après la baisse de la semaine dernière, on repart légèrement de l'avant aujourd'hui sur les marchés européens.
Très légère baisse, mais qui suffit à l'indice parisien pour retrouver les 7000 points, puisque vous avez un CAC 40 qui est à 7013 points. C'est une petite hausse de 0,25% aujourd'hui. Des marchés en Europe qui sont bien orientés. Pour une fois, on ne peut pas dire que c'est dans le sillage de l'Asie, hein, puisque les marchés en Chine sont fermés toute la semaine pour le nouvel an chinois. Du côté d'Hong Kong, c'est fermé jusqu'à mercredi. Mais là, depuis quelques minutes, on a des indices qui sont dans le sillage des États-Unis, qui sont dans le vert, quand vous regardez les contrats futurs avec trois indices américains qui devraient ouvrir sur une note très prudente entre 0,1 et 0,3%. Vous l'avez dit, ça y est, c'est le coup d'envoi des publications d'entreprises cette semaine. Ça sera vraiment ce qui va driver les marchés dans les prochaines semaines. En attendant, on a des volumes d'échanges qui sont particulièrement faibles, puisque quand vous regardez le CAC 40, vous avez seulement 900 millions d'euros échangés, ce qui est particulièrement faible. Habituellement, c'est des volumes qu'on retrouve en milieu de journée, donc ça prouve bien qu'on a des investisseurs qui sont très prudents, qui attendent avant de passer des ordres, qui attendent de voir les publications de cette semaine, que ce soit du côté des États-Unis et en Europe. En attendant, vous avez un marché obligataire qui se tend un tout petit peu, avec un 10 ans français qui prend 4 points de base à 2,66, 10 ans américain qui prend 5 points de base à 3,54. Et du côté des valeurs, on a surtout les valeurs défensives qui surperforment aujourd'hui, du Pernod Ricard qui gagne 1,5% à 194 euros, et puis quelques dossiers spécifiques qui sont dopés par des notes d'analyse. C'est le cas notamment de Unibail Rodamco Westfield, qui est la plus forte hausse du CAC 40 et la plus forte hausse du SBF 120, avec notamment BNP qui vise plus de 60 euros sur la valeur, on est à 57,95 euros. Et puis à l'inverse, Worldline ferme la marche avec un titre qui baisse de 1,2%. Et puis les cours du pétrole qui continuent de grimper, qui continuent d'anticiper les mesures de restriction concernant les barils russes, et puis surtout la réouverture de la Chine, et un baril de Brent qui gagne plus de 1% et qui se rapproche des 89 dollars cet après-midi.
Et vous le disiez Étienne, l'un des faits du jour sur le marché des devises, cette nouvelle baisse du dollar face à l'euro, c'était particulièrement spectaculaire il y a quelques heures, l'euro au-delà du dollar 0,9. Bertrand Lamiel avec nous depuis Ports-en-Pas. Bonjour Bertrand, on est donc ravi de vous retrouver en direct. C'est un mouvement qui dure depuis maintenant plusieurs semaines, la baisse du dollar face à l'euro, mouvement encouragé par les déclarations des différents membres de la BCE qui restent très stricts, très fermes sur cette poursuite des hausses de taux, sans doute sur un rythme de 50 points de base à chaque fois, au moins pour les réunions de février et de mars. Alors l'euro qui monte face au dollar, est-ce que ça va de plus en plus à vos yeux impacter les gestions, les choix d'investissement des épargnants, peut-être des particuliers, des investisseurs, et est-ce que cette question des devises sera aussi à surveiller au cœur des publications qui démarrent, Bertrand?
Alors, beaucoup de questions. Donc déjà sur le mouvement, effectivement, on a eu un renversement, c'était à la fin de l'année, où jusqu'à présent, en tant qu'investisseur européen, quand on achetait des actions américaines, on était porté par le change, et on a eu au plus haut jusqu'à 15% de gains de change l'an dernier, et là, c'est un mouvement inverse qui est en train de se mettre en place. Donc toujours sur un point de vue technique, on aura les niveaux de 1,09 et 1,12 qui sont à surveiller, mais globalement, à ce stade, on n'a pas de mouvement, de divergence ou quoi que ce soit, donc sur le principe, ça peut continuer. Quand on retourne sur les fondamentaux, pourquoi ça continue? Vous le disiez, la BCE clairement veut lutter contre l'inflation, va continuer à augmenter ses taux de 50 points de base sur les deux. Là où on pense que la Fed, elle, va ralentir son rythme ou espacer. Donc globalement, une monnaie européenne qui se valorise plus, enfin qui le loyer est plus sympa de ce côté-ci de l'Atlantique que de l'autre côté. Donc après, la première conclusion pour nous en tant qu'investisseurs européens, c'est déjà on a le change contre nous. Donc les variations de change, globalement, quand on regarde dans la durée, c'est relativement neutre, mais d'une année sur l'autre, ça peut faire ou beaucoup de bien ou beaucoup de mal. On peut faire des amplitudes de 20% de gains et ou de pertes de change sur le dollar contre l'euro d'une année sur l'autre. Donc première réaction à avoir en tant qu'investisseur européen, si je suis positionné sur des titres américains, c'est vérifier que je suis sur des titres qui offrent une dynamique relativement forte pour à minima contrer le change, parce que sinon vous pouvez vous retrouver dans la situation où vous allez gagner de l'argent en dollars, mais une fois le change déduit, vous vous retrouverez potentiellement perdant ou à minima avoir effacé une très grande partie des gains. Donc ça, c'est le premier enseignement. Oui, évidemment, pour les sociétés, on va regarder ça de près. Alors il faut savoir que les sociétés ne font pas tout leur chiffre d'affaires aux États-Unis ou sur de la zone dollar, qu'il peut y avoir ce qu'on appelle du netting, c'est-à-dire que on produit en dollars et on vend en dollars, donc en fait il y a que le différentiel qui est à changer après en euros, mais effectivement ça va faire partie de ces éléments qu'on va regarder, et puis aussi regarder en fait quelle est la position, la posture des directeurs financiers, donc et ce qu'ils achètent des mécanismes qui permettent de se protéger contre trop grandes fluctuations du dollar. Et typiquement, celle qu'on va regarder à la fin de la semaine, ça va être LVMH, où là, pour le coup, il y a une bonne partie du chiffre d'affaires qui est fait en dollars.
Effectivement. Alors, vous citez LVMH parmi les grandes publications à venir cette semaine sur le CAC 40. Il n'y a pas qu'LVMH. Hein. ST Microelectronics publiera le même jour. On aura la veille Alstom. Parmi ces quelques publications du CAC 40, laquelle faut-il suivre pour l'investisseur qui peut-être cherche le meilleur potentiel de valorisation? Parmi ces trois sociétés, STM, LVMH ou encore Alstom, laquelle présente le meilleur potentiel de réaction à la hausse d'après vous?
Alors sur LVMH, clairement, on est sur une société qui a un momentum qui est très favorable, c'est-à-dire que les nouvelles vont toujours dans le bon sens, et donc ça, c'est ce qui porte le titre. Mais c'est la même chose pour Hermès. A contrario, on a des niveaux de valorisation qui sont extrêmement exigeants, et donc il va vraiment falloir délivrer ce qui est attendu, c'est-à-dire faire on attend une croissance de chiffre d'affaires supérieure encore à 20%, notamment qui devrait être tirée par la division cuir et maroquinerie, et ça c'est important parce que c'est la division sur laquelle il y a les niveaux de marge les plus importants. Donc ça, il va falloir surveiller ça de très près. Mais globalement, les publications et ce qu'on a globalement de discours dans le secteur au sens large du terme nous laisse plutôt optimistes quant à cette publication. Alstom fait partie de ces groupes industriels qui sont en train de sortir de l'ornière, qui sortent d'une tendance baissière. On a des niveaux de 27 euros là qui sont importants à surveiller et qui libèrent un potentiel derrière. Là, pour le coup, on est sur un dossier sur lequel le momentum est en train de se reconstruire. Donc, le flux de bonnes nouvelles, il commence seulement à arriver et à contrer les mauvaises nouvelles qui ont malheureusement été un véritable calvaire pour Alstom en 2022. A contrario, en termes de valorisation, là, pour le coup, on est sur un dossier sur lequel on a des niveaux de valorisation qui sont extrêmement abordables. Donc après, voilà, en logique de suivi de tendance, LVMH, ça reste bien. Dans une logique plus contrariante, voilà, de retour en grâce d'une valeur qui a été, qui a vécu une année 2022 très compliquée, ça pourrait être Alstom. Et il y en a une autre qu'on va surveiller aussi, c'est Publicis. Donc là aussi, il y a une logique de l'art, hein, puisqu'une bonne partie du chiffre d'affaires est faite aux États-Unis. Et Publicis, qui depuis quelques temps vit entre 60 et 64 euros, tout dépassement de 64 libérait un potentiel d'appréciation qui est important. Là, pour le coup, on a un dossier qui... Il y a encore probablement un peu d'incompréhension de la part des investisseurs. L'acquisition de Sapient, malheureusement, s'est fait très peu de temps avant le Covid. Donc, on n'a pas vu véritablement dans les chiffres ce que pouvait complètement apporter cette division importante chez Publicis, qui est encore un peu trop vue comme une société juste de pub. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la capacité à faire parler d'années, la capacité à accompagner les clients, justement, à mieux se positionner dans le cadre de leur publicité.
Voilà. Quelques-unes des publications que vous allez particulièrement suivre. Bertrand Lamiel, depuis Ports en Part Gestion. Dans 16 minutes, Wall Street ouvrira. Les futurs américains sont orientés très très légèrement à la hausse. Le S&P 500 Futur gagne 0,15%. Et Étienne, on vous rejoint à nouveau depuis la Tour Euronext. Un titre à surveiller particulièrement tout à l'heure à Wall Street, le titre Salesforce.
Salesforce, hein, 150 milliards d'euros de valorisation boursière, un titre qui est attendu en hausse de plus de 4% après que le fonds Elliott ait annoncé renforcer sa position au capital après une baisse de 50% par rapport à ses niveaux de novembre 2021. On a le fonds activiste qui se renforce, hein, qui va tenter dans les prochaines semaines de convaincre le management de renverser la table. Hein. Pour rappel, Salesforce, c'est un éditeur de logiciels, notamment sur tout ce qui est relations entre clients, entreprises, avec plusieurs problèmes, problèmes de management, ralentissement de la croissance. Et puis dans le même temps, ces derniers jours, le groupe qui a annoncé supprimer 10% des postes existants. Alors Elliott n'est pas le premier fonds activiste à rentrer au capital, hein, puisqu'en octobre, c'est un autre fonds, Starboard Value, qui avait fait parler de lui. Pour le moment, on ne connaît pas concrètement leur grief, mais en tout cas, à très court terme, ça profite au titre, hein, puisqu'il devrait nettement surperformer Wall Street tout à l'heure à 15h30.
Merci Étienne, on vous retrouvera ensuite à 16h, bien sûr, pour la suite de cette séance européenne. Et puis à Wall Street, à 15h30, Sabrina sera avec nous pour les tout premiers échanges. À tout à l'heure. Le CAC 40 est toujours en progression de 0,16% en ce moment. Si vous avez des questions, des interrogations sur vos investissements en bourse, sur vos portefeuilles boursiers, n'hésitez pas à nous les envoyer en scannant, en flashant le QR code, hein, qui va défiler sur vos écrans tout au long de l'après-midi. Ce QR code, il suffit donc de le flasher, de le scanner pour nous envoyer vos interrogations. Et tout à l'heure, après 18h, sur nos réseaux sociaux, Amaury de Tonquédec et son expert tenteront de vous répondre dans le grand débrief en direct, donc après 18h sur les réseaux sociaux. Si vous nous suivez à la radio, que vous n'apercevez pas ce QR code, vous pouvez quand même nous envoyer vos questions, et ce, via l'adresse mail bfmbourse@bfmbusiness.fr.
BFM Business, BFM Bourse, l'écho du monde en direct.
Et Michel Ruimi nous accompagne également pour Lévy Capital Partners. Bonjour Michel.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver. L'euro a donc franchi tout à l'heure la barre d'1,09$ pour la première fois depuis le mois d'avril. On sent un certain retour de l'optimisme. Alors l'optimisme, c'est peut-être un grand mot, mais quand même moins de pessimisme, on va dire, sur les perspectives de la zone euro. On aura d'ailleurs demain les indices PMI, la confiance des directeurs d'achat en zone euro, premier indicateur du mois de janvier. Est-ce qu'on peut espérer que ces indices PMI, qui étaient remontés à plus de 49 le mois précédent, franchissent la barre des 50 et donc retrouvent des niveaux d'expansion? Est-ce qu'on peut rêver de ce scénario pour demain éventuellement, Michel?
On peut rêver, bien sûr, mais il faut rester aussi dans la réalité. En fait, c'est vrai qu'il y avait une meilleure... l'indice avait progressé en décembre, notamment du fait d'une amélioration, on va dire, de la situation en Allemagne qui avait pesé au cours du second semestre. Mais malgré tout, je pense que dans les prochains mois, l'économie de la zone euro risque de souffrir d'une baisse de la demande globale. D'un côté, il y a les niveaux d'activité qui vont pâtir d'une baisse du pouvoir d'achat des ménages, du fait d'une forte inflation, et cette inflation, dans la décrue, reste un peu peut-être lente, on va dire, tout au cours de l'année 2023. Et d'un autre côté, on va avoir les taux d'intérêt qui risquent de s'élever, donc de mauvaises conditions financières pour les entreprises, qui, elles, restent préoccupées par les perspectives de marché de l'énergie, par celles de l'inflation, du risque potentiel de récession. Donc aujourd'hui, à mon sens, il y a peu de chances pour que l'économie de la zone euro puisse retrouver une croissance significative et stable à court terme. Et donc, même si la dégradation de la conjoncture s'annonce moins marquée qu'anticipée, on va dire, en ce début d'année, les signes d'un réel retour à la croissance dans les prochains mois risquent quand même d'être très modestes. Hein. Donc, bien sûr, il y a été à attendre, mais il y a des positions qui sont très fortes, et notamment celles des banques centrales.
C'est vrai, et d'ailleurs, l'une des explications à la baisse du dollar face à l'euro ces dernières heures à nouveau, c'est que un membre de la Banque Centrale Européenne a adopté un ton à nouveau très faucon pour la suite. C'est Glasnost, membre du Conseil des gouverneurs. Il a déclaré hier que la BCE relèverait ses taux de 50 points de base en février, de 50 points de base à nouveau en mars, et qu'elle poursuivra sur ce rythme au cours des mois suivants. Est-ce que vous achetez ce scénario malgré la morosité que vous attendez sur les perspectives économiques?
Et en fait, l'inflation a baissé au cours de ces deux derniers mois. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Hein. On est passé de 10,6 en octobre à 9,2, on va dire, en décembre. Et ça devrait, je dirais, s'accélérer en 2023. Mais je dirais, toute l'année 2023 sera une désinflation. Mais on s'est aperçu que, sachant qu'il y a quand même des taux d'inflation relativement élevés, dans le contexte, aujourd'hui, les hausses de taux deviennent efficaces pour maîtriser l'inflation. On a vu aux États-Unis, on a vu au Canada, etc. Donc, c'est pour ça que, à mon avis, la BCE ne risque pas de ralentir le rythme de la hausse de ses taux d'intérêt. Il ne faut pas oublier qu'elle a augmenté ses taux directeurs à un rythme élevé, puisqu'elle avait fait près de 250 points de base en 5 mois. Mais, pour autant, elle n'a pas réussi à se rapprocher de son objectif de 2%. Donc, entre guillemets, aujourd'hui, elle a atteint une zone de normalisation, c'est-à-dire la politique monétaire ne stimule pas ni ne restreint l'inflation. Et je pense que nous sommes à mi-chemin de son chemin, entre guillemets, et qu'en 2023, il y aura de nouvelles hausses de taux qui sont nécessaires, qu'il faudra faire de manière pragmatique.
Et donc, jusqu'où la hausse de l'euro, du coup, face au dollar, puisque parallèlement, on attend plutôt un ralentissement des hausses de taux de la Fed?
Ben, c'est ça le problème. C'est que, à mon sens, nous sommes à mi-chemin. C'est-à-dire que, d'après moi, à mon sens, aux alentours des vacances d'été, le cycle de resserrement sera terminé. Mais ce qui reste plus difficile à prévoir, c'est le niveau atteint par les taux d'intérêt à cette époque-là. Hein, c'est-à-dire, on va dire, en juillet, août, septembre. Et pour combien de temps? Parce que c'est pas le niveau, mais c'est-à-dire, pour combien de temps va-t-on rester avec ces taux qui posent aussi problème pour l'avenir? Et c'est ça qu'il convient de voir, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la BCE va jouer de façon pragmatique, elle n'attendra pas de façon rassurée. Il faudra bien étudier les discours de Christine Lagarde pour bien voir comment elle envisage de gérer les taux.
Effectivement, et elle doit d'ailleurs s'exprimer tout à l'heure après la clôture des marchés, Christine Lagarde, une de ses toutes dernières expressions avant la décision de politique monétaire attendue au mois de février. Les différents membres de la BCE aussi vont entrer peu à peu dans une période de blackout. Pour ce qui concerne les membres de la Fed, ils y sont déjà. Pas d'expression attendue de la part des membres de la Fed, dont on entendra donc moins parler, jusqu'à décision de politique monétaire attendue le 1er février. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Michel Ruimi, Lévy Capital Partners, régulièrement à nos côtés.
BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO.
Chaque jour, on fait des perspectives aussi sur le marché de l'immobilier, qui reste le placement préféré des Français. Henri Buzy-Cazot vient de nous rejoindre, le président de l'Institut du Management des Services Immobiliers, l'IMSI. Bonjour.
Bonjour Guillaume. Tous mes voeux.
Meilleurs voeux également à vous.
Merci.
Et au marché. On attendait d'ailleurs monts et merveilles, peut-être, du Conseil National de Refondation, consacré aussi au logement. Pour l'instant, rien ne sort. La montagne n'a pas encore accouché de quoi que ce soit. Que fabrique le CNR en main?
Bon, alors déjà, il y a un calendrier du CNR et des 6 thèmes qui ont été choisis pour structurer la réflexion. Il y a mieux produire, mieux consommer, mieux se loger. Ce thème a été ajouté d'ailleurs, il avait été un petit peu oublié lorsque le président Macron a lancé le CNR. Le calendrier, il est simple, et pour l'instant on n'y a pas dérogé. C'est en juin, peut-être début juillet, que le CNR rendra ses conclusions tous azimuts sur l'ensemble des thèmes. Et les ateliers à l'intérieur du CNR, le logement est un atelier parmi d'autres, à la fin du mois de février, au début du mois de mars, vont rendre leurs conclusions qui devront être synthétisées et donner un rapport global. Donc on est en train de travailler, on a des réunions, alors elles se font en distanciel, elles sont virtuelles, ce qui leur enlève un peu de richesse, mais bon, c'est ainsi. En tout cas, ce que je peux dire des débats auxquels je prends part, le dernier était il y a quelques jours, on en a un autre dans quelques jours, c'est qu'ils sont très riches, sans tabou, très ouverts, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'il ne va pas en sortir. Alors, est-ce que c'est une refondation? Vous savez, je découvre par exemple que on exhume des travaux du précédent quinquennat. Et d'ailleurs, on a fait revenir sur les questions de logement député Jean-Luc Laglaise, qui avait rendu un rapport très intéressant sur la construction et le foncier. Donc, on a estimé qu'on avait besoin de lui. Et on redébat de mesures qui n'ont pas été mises en œuvre. Donc, refonder, ça va peut-être être aussi utiliser de très bonnes idées qui ont été émises au cours des 10 ou 15 dernières années.
Exemple, notamment des 5. Quelle piste vous semble à même d'emporter l'adhésion et peut-être d'arriver en tête d'affiche des propositions du Conseil National de la Refondation pour relancer l'offre en France de logements qui manque?
Bien sûr. Alors, on a tendance à dire le zéro artificialisation nette, la transition environnementale bloque la production. Le gouvernement a compris qu'on ne pouvait pas la bloquer. Même dire qu'en 2050, on n'artificialiserait plus de nouveaux terrains, ou qu'on diviserait par deux à l'échéance 2030, il y a des besoins. Alors comment on va faire ? Ben, il faut un mode d'emploi donné aux communes. Il faut utiliser, par exemple, les terrains publics qui sont en jachère. Ils sont toujours là. On ne sait toujours pas combien l'État détient de terrains qui sont artificialisés déjà et sur lesquels on pourrait construire. Il faut mobiliser. La première loi de mobilisation foncière, c'était 2014, Cécile Duflot. On a un petit peu de retard. Deuxièmement, revoir la fiscalité, par exemple, pour que les propriétaires de terrains privés soient incités, non pas à les garder, mais à les vendre très rapidement, sous peine d'être davantage imposé sur la plus-value. Simplifier les processus. Dire aussi qu'un maire... Alors, il y a un grand débat. Est-ce qu'il faut reprendre au maire le pouvoir de délivrer les autorisations de construire ? Moi, je ne le pense pas, je ne suis pas le seul.
Mais ça existe déjà,
je crois
ça.
Beaucoup
Certains préfets peuvent, s'ils le souhaitent, reprendre au maire, ça existe.
On pourrait dire deux choses. Et là encore, on va exhumer des propositions qui sont assez récentes. C'était le maire de Dijon qui les avait faites, hein, il y a quelques...
François Rebsamen.
François Rebsamen, il y a un an et demi. C'était de dire, principe de subsidiarité, comme on dit. Le maire délivre les permis de construire conformément au plan local d'urbanisme. Il respecte, il fait, tout va bien. Il ne le fait pas, ça remonte à l'intercommunalité. Et ensuite seulement, en dernier recours, le préfet peut faire, l'État peut se substituer. Voilà, des mécanismes qui seraient efficaces et courts, c'est-à-dire sur 2-3 ans, on libère leur foncière. Ça veut dire aussi qu'il faudrait utiliser mieux les plans locaux d'urbanisme. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a environ 30 à 40%, estimé par la Fédération des promoteurs, des capacités de construction des règles d'urbanisme que chaque commune se donne, qui ne sont pas exploitées. C'est-à-dire qu'on ne construit pas, parce que on veut pas choquer l'opinion, alors on fait pas l'étage au-dessus, on n'utilise pas tel ou tel terrain. Voilà. Donc déjà, vous savez, la refondation, je crois qu'il faut être pragmatique et modeste, c'est utiliser les bonnes solutions émises, identifiées, qui n'ont pas été mises en œuvre pour augmenter la production. On parle aussi d'un statut de l'investisseur dans le logement existant. Vous avez aujourd'hui des logements qui effectivement sont vacants, qui ne sont pas exploités. Vous avez une réticence à investir pour louer. Il faut créer un statut fiscal plus attrayant, mais sous condition, c'est-à-dire on pourrait amortir, à condition d'avoir des loyers modérés, à condition de rénover au plan énergétique ces logements. Oui. Voilà, ce ne sont pas des idées révolutionnaires, elles sont simplement... pour l'instant, pas utilisé.
Et puis, il y a la question des passoires thermiques qui progressivement ne peuvent plus et ne pourront plus être mises en location. Alors, c'est Édouard Philippe qui s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet en expliquant qu'on allait droit dans le mur avec cette mesure et qu'il fallait revenir en arrière. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Est-ce que le chantier est trop colossal ?
Alors, le mot de l'ancien Premier ministre, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas fondé. Quand vous avez un échéancier, celui de la loi Climat Résilience, qui a été promulguée, je le rappelle, le 22 août 2021, donc c'est récent, avant d'ailleurs qu'on ait des dérèglements climatiques à nos portes, à l'été dernier, sans quoi la loi elle serait peut-être encore plus exigeante. C'est un échéancier qui va jusqu'en 2034. Et donc interdit de louer, selon le manque de qualité énergétique, entre 1er janvier 2023, c'est déjà passé, et puis 2034. Moi, je ne m'indigne pas qu'il y ait un calendrier. Vous voyez, je suis président d'école, je dis volontiers, vous ne donnez pas à un étudiant une échéance pour rendre une copie, vous ne l'avez jamais, la copie. Bon, et moi, je fonctionne pareil. Donc, on s'est donné des échéances. Est-ce qu'elles devront être assouplies ? Oui, sûrement. Mais on verra. Celle du 1er janvier 2023, par exemple, les pires passoires énergétiques, elle n'est pas tenable. Bon, il va falloir l'assouplir. Personne n'en parle. Il y a 100 000 logements aujourd'hui qui ne sont pas à la toise de la loi. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, il faut leur redonner un délai. La prochaine échéance est 2025 pour tous les logements classés G. Et puis ensuite, 2028, classés E. On verra quand on approchera si on peut le faire. Je ne suis pas d'accord pour dire on déchire la copie qui a été rendue par le Parlement en 2021, c'est trop tôt. Mais il faut être très réaliste. Je trouve que le gouvernement manque de ce réalisme aujourd'hui. Il faut reconnaître, par exemple, que on a du mal avec la stabilisation de la qualité des diagnostics techniques.
Oui, il faut commencer par là. 70% encore des diagnostics pose question.
La filière, aujourd'hui, diagnostiqueur, doit être organisée, fiabilisée. Les moteurs qui sont fabriqués par l'État pour le DPE ou le futur audit énergétique sont imparfaits. Il faut l'avouer. Deuxièmement, est-ce qu'il y a les entreprises aptes à mener les travaux, c'est-à-dire qui sont reconnues garants de l'environnement ? Il y en a de moins en moins. On en avait 15%, on plonge vers les 10%. que le ministre aujourd'hui voit les choses en face. Il dit j'en veux plus, mais moi aussi j'en veux plus. Le volontarisme ne suffit pas. Il faut reconnaître que les financements, troisième grand sujet et dernier, ne sont pas au rendez-vous. Les banques, même chose, Olivier Klein a dit je les convoque. Je les invite, mais en fin de tendance, je les convoque. Il a dit ça fin décembre au congrès de la FNAIM, pour qu'elles aient une offre de financement pour tous les Français, les plus âgés, les moins solvables, les plus fragiles,
qui veulent faire des travaux. Pour les travaux. On ne parle même pas d'accès à la propriété, là, ni d'achat d'immobilier. On parle des travaux.
Et vous avez raison, les deux à la fois, parce que désormais, si vous achetez un logement qui est mal classé, savez-vous que certaines banques refusent. Eh bien, ce qu'il va falloir, c'est que les banques qui sont ingénieuses, qui savent faire de l'ingénierie financière, soient capables de vous vendre un logement qu'il va falloir redresser au plan énergétique, c'est-à-dire de coupler ça avec une enveloppe de travaux à exposer dans les 2-3 ans. Bref, il y a des obstacles, ils sont franchissables, il faut les identifier, c'est tout.
La mensualisation du taux d'usure, quand même, ça c'est une bonne nouvelle.
Très bonne nouvelle.
Ça va refluidifier le marché.
Très bonne nouvelle, ça va le fluidifier. Il ne faut pas se cacher que l'augmentation des taux, quand j'entends mais l'inflation, parents, grands-parents se sont fait des patrimoines immobiliers grâce à ça. On a un petit problème, on a l'inflation des taux et de tous les coûts, mais pas l'inflation des revenus. Donc aujourd'hui, ce taux d'usure qui était un plafond qui bloquait, on va dire 40% des dossiers environ présentés depuis 6 mois, et parce qu'on regardait 3 mois en arrière dans le rétroviseur, et donc les taux évoluaient trop vite pour que le plafond ne soit rehaussé, désormais il va être réaliste ce plafond jusqu'en juillet. C'est une mesure provisoire, je pense qu'il faudra sinon la pérenniser, la rallonger. Oui, très bonne nouvelle. Bon, elle est pragmatique.
Du coup, la demande va à nouveau pouvoir se manifester et les prix vont tenir. Il nous reste 20 secondes, malheureusement.
Non, les prix, clairement, doivent corriger l'inflation des taux. C'est-à-dire que vous perdez aujourd'hui entre 10 et 15% de pouvoir d'achat immobilier. Il faut que les prix eux-mêmes se calment à ces niveaux-là. Voilà. Ouais. Globalement, c'est ça la réalité.
Donc, de combien vous les voyez baisser les prix?
Ah, mais moi, je les vois en 2023 devoir se corriger de l'ordre de 10-15%. Ce sont d'ailleurs les propos du président, par exemple, de Century 21. Vous voyez, je cite une référence dans la profession.
Henri Buzicazo, président de l'IMSI, régulièrement à nos côtés. Ça passe toujours trop vite, Henri. Beaucoup de choses à dire.
Merci, Guillaume. Je préfère ça que l'inverse.
Exactement, c'est vrai. À très bientôt. Bon retour. Dans un instant, Wall Street, on sera sur place à New York pour les premiers échanges aux États-Unis. Le CAC 40 est toujours en très, très légère hausse de 0,18%. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume Sommerer.
Un peu plus de 15h30, Wall Street vient d'ouvrir direction New York. On va rejoindre, alors que la cloche retentit, Sabrina Quagliozzi. Bonjour Sabrina, on est ravis de vous retrouver. On espère que vous avez passé un bon week-end.
Bonjour,
et que cette nouvelle semaine démarre bien aux États-Unis. Comment se passent les premiers échanges, Sabrina?
Écoutez Guillaume, c'est assez hésitant, mais on est quand même toujours sur cette tendance positive depuis le début de l'année. Ces trois indices américains sont encore en hausse, malgré les difficultés de la semaine dernière, notamment sur l'indice Dow Jones. Le Dow Jones, d'ailleurs, et le S&P 500 qui étaient en baisse sur la semaine. Mais on est toujours positif si on fait le bilan depuis le début 2023. Et ce matin, à l'ouverture, écoutez, c'est très hésitant, mais quand même un pied en positif. Vous avez le Dow Jones, Guillaume, qui prend 0,1%, pratiquement. On était à 33 401 points. Le S&P 500, plus 0,1%, 3977 points. Quant au Nasdaq, qui surperforme depuis le début de l'année, le Nasdaq est en hausse de 0,26% actuellement. On est à 11 169 points, avec bien sûr, Guillaume, des marchés qui attendent la Fed la semaine prochaine, un ralentissement des hausses de taux, puisque le consensus attend une hausse de 25 points de base lors de cette prochaine réunion, et espère discours de Jérôme Powell et qui pourrait donc évoquer l'arrêt des hausses de taux d'intérêt. Grand rendez-vous. En attendant, on aura quelques statistiques. On aura aussi et surtout beaucoup de résultats d'entreprises. L'aérien en vedette cette semaine. Les valeurs technologiques également. Vous avez par exemple un Comcast, Boeing ou encore Microsoft et Tesla qui lèveront le voile sur leurs résultats trimestriels. Mais pour le moment, donc, petite hausse sur ces marchés américains. On reste prudent avec une légère tension du côté de l'obligataire. 3,52 sur le 10 ans américain. Et le pétrole, de son côté, affiche une petite hausse également, plus 0,56%.
Les valeurs à ne pas rater avant les publications, vous le disiez, qui vont animer la semaine. Disney, vous avez aussi repéré Salesforce et Spotify. Sabrina.
Ah, Disney, Avatar 2, qui a franchi, figurez-vous, la barre des 2 milliards de dollars de recettes mondiales. Il n'y a pas beaucoup de films qui ont atteint cette barre. Il y en a 6 au total, dont 3 films de James Cameron. Disney qui ouvre la séance malgré tout sur une baisse. Allez, 0,4% de repli pour le titre Disney ce matin. Spotify, oui, avec une réduction d'effectifs de 6%. Et le groupe annonce le départ de son responsable contenu. On garde un œil, bien sûr, là aussi, sur le titre Spotify, qui est en hausse de 5,5% ce matin. Salesforce, avec Elliott Management, qui, selon la presse, aurait investi plusieurs milliards de dollars dans le géant tech Salesforce, en hausse de 2,13%. Oui, AMD est également sur le devant de la scène aujourd'hui, avec une hausse ce matin, grâce à une note de Barclays qui passe de neutre à surpondéré sur la valeur, voyant un joli potentiel de hausse. Le titre AMD prend 3,7%. Et puis, figurez-vous que vous avez Bank of America, JP Morgan et d'autres banques qui seraient en train de plancher sur un nouveau moyen de paiement digital, un portefeuille numérique pour concurrencer Apple Pay ou encore PayPal, ce qui pèse d'ailleurs sur PayPal ce matin, moins 2,45% ce matin à l'ouverture, dans une tendance donc hésitante, puisqu'on est désormais dans le rouge sur l'indice Dow Jones, moins 0,07%, 33 352 points. Reste en haut sur le S&P 500, mais c'est très léger. Le Nasdaq en tête, plus 0,2%, 11 168 points. On se retrouve tout à l'heure, Guillaume, pour voir comment évolue cette séance à Wall Street.
Depuis New York, à tout à l'heure, en effet, en direct, Sabrina, et à Paris, en Europe, pas de variation, pas de changement depuis l'ouverture de Wall Street, qui a ouvert comme attendu. Résultat, l'Eurostock 50 gagne toujours 0,2%. Notre CAC, toujours à plus de 7000 points, 7006 points, plus 0,14%. Unibail-Rodamco profite d'une note favorable et gagne plus de 4%. Alstom, qu'il faudra suivre aussi cette semaine pour sa publication attendue, gagne 2,3%. Publication attendue aussi d'ST Micro, qui fait partie aussi des 4 plus fortes hausses aujourd'hui. Puis jeudi, ce sera LVMH qui publiera ses résultats. D'autant plus à suivre LVMH que le groupe, bien sûr, sur les parités de change est très exposé. On en parlera d'ailleurs de l'évolution des parités de change et notamment de cette incroyable hausse de l'euro depuis quelques semaines face au dollar. Tout à l'heure, l'euro a refranchi à la hausse la barre d'1,09 $, puisque les marchés anticipent la poursuite de resserrement monétaire strict de la BCE, alors que ça pourrait un peu ralentir aux États-Unis. L'euro, donc, tout à l'heure, a refranchi pour la première fois en 9 mois la barre d'1,09 $. On est actuellement à 1,0850.
BFM Business, BFM Bourse, mouvement de marché.
Quelle perspective sur les marchés alors que les publications d'entreprises vont vraiment accélérer cette semaine? On parlait des valeurs du CAC qui vont publier, mais on en a aussi hors CAC 40. Demain, par exemple, Compagnie des Alpes, Interparfums, Partouche, il y en aura d'autres en fin de semaine. Elior, parmi toutes ces publications. Puis aux États-Unis, les GAFAM vont entrer en jeu. Microsoft, dès demain, Anne-Laure Frischlander Jacobson vient nous rejoindre. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau de BFM Business, directeur général de BNY Mellon IM France. Est-ce que vous êtes à l'aise là? On n'a pas encore véritablement commencé à goûter les publications, un petit peu aux États-Unis, mais on n'est qu'au tout début. Et en Europe, ça n'a pas vraiment démarré. Et les marchés ont déjà pris depuis le début de l'année plus de 8% pour ce qui concerne les marchés européens. Est-ce que vous sentez qu'on en a encore dans le ventre pour continuer à la hausse?
C'est trop tôt. On est beaucoup plus prudent et beaucoup plus pessimiste quelque part, plus sceptique en fait, quant à ce rallye qui s'explique par le fait qu'il y a vraiment une anticipation d'un scénario accommodant, d'atterrissage en douceur, ralentissement de l'inflation qui laisse supposer donc la fin d'une hausse des taux. Pour nous, ils sont 6 mois de trop tôt. On pense que les conditions ne sont pas encore complètement réunies pour mettre fin à ce cycle de remontée des taux. Et il nous faut différentes conditions. D'une part, les marchés ont regardé quand même récemment l'inflation qui est le CPI, sans regarder vraiment ce qu'on appelle la core inflation. Donc, il y a un regard au niveau des données qui n'est pas complètement complet, qui est retraité en fait des matières premières. Or, les matières premières, la baisse des matières premières, elle peut s'expliquer d'une part parce que la Chine était confinée, et d'autre part parce que l'hiver a été doux et que quelque part là, au niveau du cycle de la crise énergétique, il y a eu ce qu'on appelle le redoux sur les marchés également. Maintenant, Nous, ce qu'on anticipe, c'est que pour qu'on arrive à la fin du pic de l'inflation, il faut qu'on ait cette stabilité au niveau du marché du travail aux États-Unis, ce qui n'est pas encore complètement rempli. On a eu d'ailleurs des chiffres qui n'étaient pas très très bons. Au niveau du marché du travail la semaine dernière.
C'est-à-dire que le marché de l'emploi reste trop dynamique par
trop
rapport
dynamique,
aux objectifs de la
trop
Fed.
Dynamique, trop dynamique. Là encore, cette tension sur les salaires. Il n'y a pas eu ce ralentissement-là. Alors, et en Europe, comme l'a dit Christine Lagarde très clairement, elle estime qu'on n'a pas fini ce cycle de remontée des taux et que l'inflation n'était pas encore arrivée à son pic. Donc, il y a d'une part le dynamisme de l'inflation, quand est-ce qu'on va arriver à ce plateau ? Et deuxièmement, comment les banques centrales vont réagir par rapport à ces données ? Or là, c'est vrai qu'il y a une petite divergence qui est en train de s'opérer, avec des marchés qui anticipent finalement que la Fed va mettre une pause quant à son cycle de hausse des taux, pour se stabiliser peut-être autour de 4,5. Nous, on considère que les marchés, que la Fed va devoir maintenir des taux autour de 5%, voire 5,5% tout au long de 2023. Mmh. Et puis, est-ce que la Fed se tromperait pas justement dans cette anticipation peut-être de ralentissement, de mettre une fin à cette hausse des taux ? C'est-à-dire que là, aussi le risque d'erreur de la Banque centrale de mettre un signal accommodant un peu trop tôt, quitte à reprendre finalement... Or, voilà.
Donc vous dites, les marchés se sont emballés en ce début d'année, ça tout le monde l'a constaté, et emballés trop tôt, ils ont acheté trop tôt la réduction des plans de resserrement monétaire. Mais c'est le boulot des marchés d'anticiper. Ils ont toujours 6 mois d'avance, les marchés. Est-ce que justement, en tenant compte de cette anticipation qui fait partie même de la raison d'être des marchés, en tenant compte de cette anticipation, ben finalement, eux sont à l'heure, et dans 6 mois, en effet, on aura ce ralentissement des hausses de taux, peut-être même avant. On attend peut-être 25 points seulement de hausse de taux en février de la part de la Fed.
Oui, alors ça prend aussi... Ça prendra en compte le fait qu'il n'y ait pas de passage par la récession. Or, pour nous, ce que l'on considère, c'est que les politiques monétaires, notamment aux États-Unis, vont devoir faire passer l'économie, au moins d'une façon modérée, dans un scénario de récession. Et ça va avoir un impact sur les résultats. Donc, quelque part, aujourd'hui, quand on regarde les niveaux de valorisation et l'anticipation de qu'est-ce qui est dans les prix, c'est... quelque part un scénario qui est beaucoup trop optimiste par rapport à celui que l'on peut avoir encore, qui est poursuite de l'inflation, ralentissement de l'économie, des fondamentaux qui vont être encore diminués avant de finalement se stabiliser.
Ok, donc prudence chez Benoît Hamelone, IM. On est prudent là après cette hausse, on craint une éventuelle rechute, d'autant plus que les publications qui démarrent à peine pourraient décevoir les attentes. Alors les attentes des analystes ont été pas mal abaissées quand même ces dernières semaines,
oui.
Mais c'est pas pris en compte par le marché, puisque eux, pour l'instant, ont continué de progresser. C'est ce que vous dites, il y a un écart.
On devrait observer des baisses de résultats qui soient plus prononcées. Alors est-ce que ça va être dans ces prochaines annonces ou un peu plus tard ? Mais attention à cet engouement trop optimiste, selon nous.
Bon. Et cette surperformance européenne, parce que quand on parle d'engouement, en ce moment, on pense surtout, pour le coup, à l'Europe. L'Europe est beaucoup moins chère que Wall Street. Hein. Elle reste beaucoup moins chère que Wall Street, mais elle a largement rebondi, beaucoup plus que le marché américain depuis le mois de septembre et encore depuis le début de l'année. Est-ce que vous estimez néanmoins, est-ce qu'on peut estimer néanmoins que ce retard de valorisation qui perdure de l'Europe face aux États-Unis pourrait permettre, pour le coup, au marché européen de continuer de remonter ? Est-ce que, d'ailleurs, le biais value des marchés depuis quelques semaines, cette tendance à acheter davantage les valeurs décotées que les autres pourraient perdurer dans la mesure où l'écart entre les décotés et les autres, l'écart de valorisation, même si les décotés remontent, reste également historiquement important.
Il y a deux choses. Il y a la devise d'une part et les marchés d'autre part. Si on prend la devise, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, là aujourd'hui, l'euro a rebondi pour deux raisons. La première, c'est finalement une poursuite. Enfin, une annonce de poursuite de sa remontée des taux d'une banque centrale européenne qui veut finalement avoir une politique plus forte et en même temps finalement au niveau du flight to quality, c'est-à-dire que le dollar, on sait, était la valeur refuge par excellence et finalement si l'économie s'en sort pas si mal, pourquoi finalement le rôle du flight to quality du dollar va forcément baisser. Alors, donc ça, c'était en faveur de l'euro. Maintenant, au niveau des marchés, les marchés occultent finalement aussi, là encore, des potentielles mauvaises nouvelles, puisqu'ils sont quand même plus favorables. Il y a un emballement du fait que les marchés ont été finalement assez résilients dans la crise énergétique. Les résultats sont pas si catastrophiques que ça. Mais on n'a pas encore intégré de potentielles mauvaises nouvelles. Il y a quand même une politique aujourd'hui qui n'est pas forcément favorable au maintien des fondamentaux en Europe. Et notamment, on voit potentiellement une crise du pouvoir d'achat qui est assez forte, la détention sociale. On s'attend à ce qu'il y ait une poursuite au niveau des mauvaises nouvelles potentielles dans toute la sphère socio-économique.
Mais si le consommateur consomme moins, l'inflation ralentira d'autant plus et la BCE finira par moins relever ses taux aussi. C'est-à-dire que les mauvaises nouvelles éventuelles que le marché n'anticipe pas suffisamment, ces mauvaises nouvelles pourraient devenir des bonnes nouvelles. Et de ce point de vue aussi, on peut imaginer que le marché, même en tenant compte des mauvaises nouvelles ou même quand elles commenceront à vraiment se matérialiser, peut-être dans les publications, les interprétera ces mauvaises nouvelles positivement.
À condition que l'impact sur l'économie reste modéré. Si on a finalement une Europe qui rentre en récession d'une façon plus prolongée et plus profonde, même si l'inflation diminue, eh ben forcément, ça ne va pas... C'est le rapport inflation contre impact sur l'économie qui est regardé. Or, on reste quand même très prudent sur le marché européen. Alors, on est plus favorable sur le crédit européen que sur les actions européennes actuellement. Le crédit européen nous semble intéressant parce qu'on a un rendement qui est assez élevé, qui est autour de 3,5-4, et des valorisations qui sont plus attractives par rapport aux États-Unis. Par contre, sur le marché des actions, on reste plus favorable sur le marché américain, mais pas encore maintenant, c'est encore trop tôt, on s'attend à venir dans 6 mois, parce que les fondamentaux seront plus solides, selon nous, sur le marché américain que sur le marché européen.
Oui, et le fond de votre discours, c'est de dire, et vous avez démarré là-dessus, les marchés ont 6 mois d'avance, c'est-à-dire qu'à vos yeux, on est monté beaucoup trop vite, là, on a vendu la peau de l'ours avant d'avoir tué pour plein de sujets, sur plein d'enjeux. Les marchés doivent peut-être corriger, ou en tout cas marquer une pause, mais dans six mois, là, une hausse peut-être plus durable, en tout cas une hausse à nouveau significative, sera peut-être en l'occurrence là davantage justifiée à vos yeux.
Oui, c'est-à-dire que on n'est pas profondément négatif, hein, mais on considère qu'il va y avoir un plateau qui durera au niveau de l'inflation avant de diminuer. Et qu'on peut s'attendre à une volatilité, à des chocs, et que la valorisation des marchés aujourd'hui n'inclut pas du tout ce scénario-là. Bon. Et que, pour nous, il faudra attendre probablement 2024 pour revenir au niveau de 2021, au niveau du S&P 500.
Oui, mais il y a tellement de liquidités de côté que personne ne veut rater la moindre manifestation de hausse sur le marché. En se disant, quand ça va vraiment repartir dans la durée, il sera peut-être déjà trop tard.
Oui, mais la baisse, elle n'est pas encore suffisamment substantielle aujourd'hui. On est sur des niveaux du CAC 40, là, 7000, qui sont finalement pas très loin de ce qu'on avait il y a 2 ans. Donc c'est
on est à 4% à peine des records absolus sur le CAC. Mais la Chine est en train de rouvrir aussi.
Non, mais c'est intéressant. La Chine rouvre, et c'est intéressant. Maintenant, dans quelle mesure cette réouverture de la Chine va créer ou pas de l'inflation, ou va être justement permettre justement de la réduire. Or, justement, si on regarde si on décortique un petit peu les derniers chiffres de l'inflation, où on avait une forte baisse au niveau des matières premières, c'est aussi dû au confinement de la Chine qui était quand même qui n'a pas consommé. Dès lors qu'elle se met à consommer, à produire, il peut y avoir une remontée des prix du pétrole. La Chine est importatrice de ces données-là.
Donc prudence là-dessus aussi. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Anne-Laure Frischlander-Jacobson, je vais y arriver, Frischlander-Jacobson, merci d'être passé donc pour BNY Mellon IM France. Vous êtes directeur général de BNY Mellon IM France. Merci, à bientôt.
Merci.
Bon retour. Le CAC 40 est en toute petite hausse avec Wall Street également, plus 0,14% sur le CAC. Wall Street en très légère progression aussi. On va de moins en moins entendre parler des membres de la Fed dans les prochains jours, puisque on entre dans le blackout traditionnel précédant la décision de politique monétaire pendant 8-9 jours. Donc pas d'expression attendue des différents membres de la Fed. On verra comment, dans ce contexte un peu plus vide sur le front de la Fed, les taux évoluent à mesure qu'on s'approchera de cette décision attendue la semaine prochaine, décision de politique monétaire américaine.
BFM Business, BFM Bourse, valeur ajoutée.
Oui, une idée de valeur en plus si vous souhaitez diversifier, compléter vos portefeuilles. Sarah Thirion nous accompagne pour TPI Cap Europe. Bonjour Sarah.
Bonjour.
En plus, c'est une journée spéciale consacrée aux ETI, aux entreprises de taille intermédiaire sur l'antenne de BFM Business aujourd'hui. Vous nous proposez donc aujourd'hui, en l'occurrence, une ETI sur laquelle vous êtes positionnée à l'achat. Sarah, quelle valeur, de quelle société allez-vous nous parler aujourd'hui?
Robertet, qui est à la fois une ETI et un leader mondial. C'est un ETI avec un peu plus de 2100 collaborateurs, un chiffre d'affaires estimé à un peu plus de 660 millions d'euros en 2022 attendu, et un total bilan qui est de moins de 850 millions d'euros. Et pourtant, Robertet est un leader mondial de l'approvisionnement et de la transformation de matières premières végétales en extraits naturels, principalement pour les marchés de la parfumerie, de la cosmétique et des produits pharmaceutiques et alimentaires. C'est un groupe qui œuvre sur un marché en croissance structurelle avec de fortes barrières à l'entrée. Le marché est porté par une demande de plus en plus forte des consommateurs pour des produits naturels. Et en plus de cela, on a des réglementations qui sont de plus en plus strictes sur l'usage des produits de synthèse. Donc on est sur un marché des extraits naturels qui est en croissance estimée de 7-8% par an, complètement décorrélé de l'évolution de la macroéconomie. L'autre avantage du groupe, c'est qu'il a la capacité à sourcer et réussit à sécuriser un nombre important de matières premières. Ils ont plus de 400 ingrédients achetés chaque année, y compris les matières premières les plus rares, ce qui en fait aujourd'hui une capacité unique et un acteur incontournable dans le marché des arômes et des parfums.
Est-ce que cette situation que vous nous décrivez de Robertet, est-ce que cette situation est enviée dans le milieu sur ce secteur, Sarah ?
Alors, en tout cas, vous avez raison, elle est enviable. Est-ce qu'elle est enviée ? C'est une question à laquelle on aura peut-être une réponse un jour. Vous savez qu'au capital de Robertet figure le groupe Firmenich, qui a à peu près 21,5% du capital, et Givaudan, qui a un peu moins de 5% du capital, ce qui crée factuellement un petit attrait spéculatif autour du dossier. Pour l'instant, la famille Maubert a toujours rappelé sa volonté de préserver son indépendance. Cependant, il y a quand même eu des changements au niveau de la gouvernance et du capital qui pourraient faire évoluer la donne dans les prochaines années. On a eu la nomination d'un CEO externe au groupe en remplacement de Philippe Maubert. Et puis, on a eu une opération de Robertet sur ses propres actions qui a abouti à la cession de 10% du capital par la famille Maubert. Donc, pourquoi pas? En tout cas, pour des raisons fondamentales et uniquement fondamentales, nous sommes à l'achat du dossier avec un target price de 1050 euros.
Oui, c'est pas donné. 1050. On est actuellement à 859 euros. Robertet, cette ETI, en cette journée spéciale ETI, mais leader mondial que vous proposez aujourd'hui à nos auditeurs et téléspectateurs. Merci Sarah, Thirion. TPI Cap Europe régulièrement à nos côtés. Le CAC 40 est en hausse de 0,14%, dans des volumes assez faibles aujourd'hui avant les nombreuses publications d'entreprises attendues cette semaine. Ça va démarrer, sur le CAC. Trois publications cette semaine sur le CAC. Celle d'Alstom, celle d'ST Microelectronics et bien sûr celle aussi d'LVMH attendue jeudi. Puis hors CAC aussi. Demain, on suivra par exemple Interparfums ou encore Compagnie des Alpes.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et face à l'inflation, comment les épargnants réagissent-ils? Dans quoi les investisseurs en assurance vie choisissent-ils de placer leur argent? Philippe Parguet vient de nous rejoindre, directeur général de Norcia. Bonjour Philippe.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue. Vous publiez votre baromètre trimestriel sur l'assurance vie. Il porte donc sur le dernier trimestre de l'année 2022. On en parlait déjà beaucoup, une possible récession, l'inflation fin 2022 était déjà bien installée. Est-ce que du coup, dans ce contexte, les investisseurs ont envoyé des signaux d'inquiétude?
Alors en fait, on a quand même traversé une année 2022 extraordinaire en termes de mouvement, enfin extraordinaire mais difficile. On a eu la guerre aux portes de l'Europe, le retour de l'inflation, personne n'a dirigé, je pense, d'entreprise ou peu ont dirigé d'entreprise dans le monde de l'inflation. Après, la fin de l'argent gratuit, donc effectivement, c'est toute une source d'inquiétude. Et puis, finalement, on s'y est fait. Alors, ça a été extrêmement sélectif en termes d'investissement, mais finalement, on s'y est fait et les conseillers en gestion de patrimoine ont massivement investi sur les unités de compte au détriment du fonds euro.
D'accord. Fin 2022, malgré la montée des risques dont on aurait pu penser qu'elle entraîne un réflexe de repli, la quête de refuge du côté des investisseurs, non, au contraire, les unités de compte continuent de gagner des parts de marché.
Continuent de progresser, 37% de fonds euros, 63% sur les unités de compte. On est dans les trimestres records. Le trimestre dernier était même encore un peu plus marqué. Après, quand on va fouiller dans les unités de compte, il faut quand même regarder que l'investissement est beaucoup plus sélectif. Il y a eu le réflexe de l'inflation. Réflexe de l'investissement qui est lié à l'inflation avec l'immobilier. La part de l'immobilier prend une part considérable dans les allocations d'actifs. On est à 32% de un tiers de la collecte qui est faite sur la partie immobilière.
Donc l'unité de compte, c'est quand même quand on parle d'unité de compte, là, c'est quand même le succès des unités de compte défensives qui s'est manifesté.
Alors finalement. Effectivement, justement, on a dans ces unités de compte, tout n'est pas 100% risque. On voit que l'immobilier, le risque de l'immobilier existe, faut pas le nier. Néanmoins, l'immobilier est beaucoup privilégié, contrairement aux autres unités de compte qu'on a l'habitude de voir, par exemple, notamment sur les actions. Les actions, il y a un an et demi, presque deux ans, c'était 30% de la collecte qui était faite sur les actions. Aujourd'hui, on est à 5%. Donc forcément, il y a un désintérêt de l'action au profit d'autres unités de compte moins risquées, du coup.
Oui. Vous citez l'immobilier, les fonds obligataires aussi attirent un peu plus à nouveau.
Eh ben justement, ça faisait partie de notre pari nos anticipations du troisième trimestre de se dire qu'il y aurait un retour en grâce de l'obligataire. Et effectivement, il commence à y avoir un certain frémissement. Alors sur la collecte, on est passé de quasiment zéro à 5-6% sur l'obligataire. Donc c'est un premier pas, mais là où on le voit de manière plus importante, c'est sur les arbitrages, donc sur le stock de tous les contrats d'assurance vie, où il y a un investissement de plus en plus important sur la partie obligataire, et notamment l'obligataire daté, c'est-à-dire qu'on va chercher des obligations d'entreprise avec une échéance qui est dans 5 ou 6 ans, et sur lesquels on a des promesses de rendement qui sont intéressantes.
Donc, montée en puissance des unités de compte qui se confirment, mais dans ces unités de compte, des choix très défensifs, finalement, de la part des investisseurs. L'obligataire monte en puissance, mais aussi parce qu'il rapporte de plus en plus, clairement. C'est la conséquence de la remontée des taux par les banques centrales. L'immobilier attire de plus en plus, et en revanche, les fonds actions ont moins attiré sur la fin d'année 2022, même dans cette poche unité de compte.
Ouais, tout à fait,
Bon, le fonds euro, pour l'instant, parce que tous les acteurs de l'assurance vie, les mutuelles, etc., sont en train de nous annoncer une hausse des rendements des fonds euros pour l'année 2022. Est-ce que vous pensez qu'on s'oriente vers un retour de l'attrait et de l'intérêt des investisseurs pour le fonds euro?
Alors, le fonds euro, c'est effectivement le retour, alors je vais pas dire en grâce, mais c'est le retour de la performance sur le fonds euro ou de la hausse de la performance du fonds euro. On est entre 30 et 50 centimes, parfois un peu plus suivant les assureurs. Il faut savoir que, prendre la considération suivante, c'est que les assureurs ont fait énormément de réserves pendant... pas tous, mais beaucoup ont fait beaucoup de réserves sur leurs fonds euros, justement pour redonner cette performance dans une période qui est difficile pour eux. La période est effectivement aujourd'hui difficile pour eux. Ils doivent faire face à la concurrence des comptes à terme, sur lesquels il y a une belle rentabilité, de l'obligataire en direct. Donc moi, je suis investisseur aujourd'hui, j'ai tout intérêt à acheter une nouvelle obligation émise ou d'acheter une obligation sur le marché d'aujourd'hui que d'avoir le fonds euro avec toute son antériorité. Donc aujourd'hui, les fonds euros redistribuent de la performance qui était en réserve. D'ici à ce que ce soit un retour de l'investissement phare pour demain, je pense qu'on n'y est pas encore. Effectivement, l'écart entre la rentabilité du fonds euro et de ce qu'on peut avoir par ailleurs est quand même reste encore assez significatif.
Dernier mot sur les comptes titres dans ce baromètre trimestriel Norcia que vous venez nous présenter à chaque fois sur BFM Business. Il y a aussi un regard sur les comportements des investisseurs via leurs comptes titres en termes notamment d'évolution de l'attrait des produits structurés. Vous avez des infos à nous apporter là-dessus? Le rapport des Français aux produits structurés évolue?
Alors, il faut voir que sur cette activité-là, l'activité de Norcia, on travaille la moitié de notre collecte est faite sur l'assurance vie, un peu plus de la moitié, et le reste sur le compte titre. Donc effectivement, on est un acteur important de l'activité du compte titre pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Ils travaillent beaucoup sur la trésorerie d'entreprise via cet outil, et ils travaillent beaucoup sur les produits structurés parce que aujourd'hui on a un retour avec la hausse des taux, on en parlait, retour en grâce des produits structurés avec un capital garanti. Et ça, pour une vision d'entreprise et pour avoir une gestion de trésorerie d'entreprise, retrouver du capital garanti, c'est tout de même assez séduisant.
Effectivement. Alors, le bon plan, c'était d'investir en produits structurés au cœur de l'automne. Hein. Puis depuis, les marchés ont bien rebondi. C'est peut-être, ça reste peut-être intéressant aujourd'hui, mais ça l'était sans doute davantage avant ce rebond incroyable des marchés qu'on a vécu depuis fin septembre.
Quoi. Alors, effectivement, sur la volatilité des marchés, après, on va chercher d'autres sous-jacents que les actions, justement, pour chercher cette rentabilité. Et mettons-nous dans la peau d'un entrepreneur. On ne s'attend pas à avoir du 10 ou du 15% de performance en faisant des spéculations. Un 3, 4, 5%, ça suffit amplement. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe.
Ce baromètre trimestriel sur l'assurance vie et les comptes-titres, l'évolution du comportement des épargnants, il vient en témoigner à chaque fois. Le directeur général de Norcia, Philippe Parguet, était notre invité. Merci Philippe.
Merci.
Passez nous voir sur le plateau de BFM Business. Dans un instant, on va rejoindre Étienne Braque depuis la tour Euronext. On est toujours assez hésitant en Europe, mais toujours bien orienté. Le CAC 40 gagne 0,1%. John Plassard aussi sera avec nous pour parler des publications à venir cette semaine aux États-Unis. Les GAFAM vont entrer dans le jeu demain. Publication attendue de Microsoft. Les GAFAM qui, vous le savez, annoncent de nombreux licenciements. Dans l'univers de la tech, on a aussi des licenciements aujourd'hui annoncés par Spotify, l'un des titres à suivre aux États-Unis. John Plassard avec nous donc pour en parler dans un instant. À tout de suite.